Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas l'habitude de commencer mes prédications comme ça, mais je voulais vous dire ma grande joie de pouvoir être là ce matin après un mois d'absence avec un petit peu d'émotion. Merci pour vos messages, pour vos prières, votre soutien. Ça va déjà beaucoup mieux. J'ai pas encore une forme de croisière, mais ça va mieux déjà. Alors nous voilà au début d'une nouvelle année civile, en 2026, depuis 4 jours. L'année 2025 s'est achevée. Certains en sont peut-être soulagés à cause des difficultés vécues. D'autres sont peut-être déçus parce qu'elle était tellement belle cette année qu'ils auraient voulu qu'elle continue toujours. Mais c'est ainsi, il y a un petit peu comme une forme de fatalisme. Chaque année, c'est la même chose. Et pourtant, je trouve qu'il y aurait un moyen d'éviter de vivre ce fatalisme de façon négative. On pourrait, aujourd'hui, en janvier 2026, en ce 4 janvier, non pas vivre le début d'une nouvelle année civile, mais plutôt la suite d'une année liturgique commencée il y a un mois, lors du premier dimanche de l'Avent. Et pendant cette période de l'Avent, on se souvient de ce temps d'attente du salut de Dieu, de son espérance, de sa joie, de sa paix, de son amour. À Noël, on a célébré la naissance de ce salut, la naissance du Messie, de Jésus. Dieu fait homme. Et aujourd'hui, quelques jours après Noël, nous célébrons ce qu'on appelle l'épiphanie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épiphanie, telle qu'elle a été pensée, réfléchie, théologiquement parlant, elle ne se limite pas seulement à la galette des rois, aussi bonne soit-elle. L'épiphanie, c'est Dieu qui se révèle. Alors, il s'est révélé déjà à celles et ceux qui l'ont entouré lors de sa naissance, les bergers notamment, on s'en souvient, ou encore Siméon et Anne, un des personnages dont on a parlé pendant l'Avent. Mais quelques mois plus tard, près de 2 ans après sa naissance, alors que Joseph, Marie et Jésus sont toujours à Bethléem, près de Jérusalem, il y a une autre rencontre. Celle des mages avec Jésus. Mais cette rencontre, elle est dans le texte qu'on va lire, mêlée à une autre intrigue. Et je vous invite à la lecture de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Des rois et des mages, c'est ce dont il est question dans ce texte. Et je vous propose qu'on médite ensemble sur comment le texte nous présente chacun de ces personnages avant de voir ce que nous-mêmes, nous pourrions en tirer pour nous-mêmes. Alors, deux rois nous sont présentés. Le plus évident, quand on lit simplement le texte, c'est le roi Hérode. Il est roi de Judée, mais il n'est pas juif. Il vient du petit pays d'Édom, au sud, souvent dominé par les juifs. Et grâce à l'aide de l'Empire romain, il avait conquis Jérusalem. Il avait fait reconstruire le temple dans sa splendeur initiale et dans sa conquête. Il avait pris soin d'éliminer tous les prétendants au trône de la précédente dynastie, celle des Maccabées. Pourquoi ? Pour être sûr, évidemment, de n'avoir plus aucun rival, plus aucun rival capable de lui disputer le trône. On comprend mieux alors pourquoi le roi Hérode est troublé quand il entend ce que les mages lui racontent, quand il entend qu'un nouveau roi est né. Hérode se sent menacé quelque part. Il se sent menacé par un enfant prétendant au trône, apparemment. Et la suite du texte qu'on n'a pas lu montre d'ailleurs dans quelle violence ce sentiment a mené Hérode. Mais Hérode ne s'arrête pas là. En bon politicien, il entend mener la danse, mener les négociations. D'abord, c'est intéressant, il s'assure de façon publique des données prophétiques qui pourraient peut-être confirmer d'où viendrait ce nouveau roi tant attendu. Ensuite, cette fois-ci de façon secrète, il demande aux mages seulement une confirmation de date. Quel âge aurait donc cet enfant aujourd'hui ? Et la suite de l'histoire nous dira que Jésus devait bientôt avoir 2 ans. Toujours de façon secrète, quelque part machiavélique, on pourrait dire, Hérode demande aux mages de trouver cet enfant roi, et puis de revenir chez lui à Jérusalem pour lui dire où il se trouve exactement. Et pour les motiver, il leur donne une raison louable, celle d'aller lui-même en personne, adorer cet enfant, se prosterner, lui accorder quelque part la royauté. Et c'est là qu'on voit la malice chez Hérode. Il profite que ces mages soient étrangers, quelque part, non connaisseurs des coutumes du pays et de son histoire surtout. Des Juifs n'auraient jamais compris Hérode et n'auraient donc probablement pas accepté. Il savait sa volonté de garder le pouvoir. Et puis, vous l'avez sûrement deviné, le deuxième roi dont il est question ici, c'est cet enfant Jésus. Et ce Jésus, il est présenté ici comme innocent, comme une victime qu'il faut protéger, mais aussi comme un espoir qu'il faut absolument garder, comme si le salut dans cette période difficile, cette époque, dans cette période d'oppression de la part des Romains et d'Hérode, comme si le salut ne pouvait venir que de lui. Comme si le salut ne pouvait venir que de Jésus. Il est présenté comme un roi, digne de recevoir l'adoration. Et alors, après les rois, les mages. Et vous les connaissez peut-être sous les noms de Melchior, Balthazar et Gaspard. Mais L'évangile ne nous donne aucun nom, ni ne donne le nombre qu'ils étaient. Et c'est intéressant parce que si l'évangile de Luc se concentre sur les bergers, sans donner leur nom, leur nombre, pour montrer que la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, de Jésus, elle s'adresse à tous, même à ceux qui sont rejetés, ceux qui sont mis de côté dans la société, comme l'étaient les bergers à l'époque, eh bien l'évangile de Matthieu, lui, se concentre sur les mages, sur des personnalités, des scientifiques, des gens respectés, avec un statut social. Eh bien, pour montrer que la bonne nouvelle de la naissance de cet enfant roi, de Jésus, elle s'adresse à tous, même à ceux qui sont respectés par la société. L'évangile, cette bonne nouvelle inaugurée par la naissance de Jésus, elle est accessible à tous. Et elle est pour tous, pour les rejetés, comme pour les acceptés de la société. Alors ces mages, le texte nous dit qu'ils viennent d'Orient, probablement d'un royaume à l'est du Jourdain, du fleuve du Jourdain, en Irak ou en Iran actuel. Et ces royaumes étaient connus pour leurs avancées scientifiques. Et du coup, il est peu étonnant de voir ces mages faire ce long voyage à pied ou à chameau, ou en caravane, peut-être avec de nombreux serviteurs, juste pour voir un nouveau roi. Parce que c'était aussi une coutume de l'Orient que de relier un phénomène astronomique à la naissance d'un bébé royal. Et c'est pour cette raison qu'ils se dirigent à l'ouest, à Jérusalem, dans la capitale, pour voir le roi, pensant que c'était peut-être quelqu'un de la famille royale d'Hérode qui était né. Les mages écoutent Hérode et les spécialistes des textes, et se dirige vers Bethléem, une ville en banlieue de Jérusalem. Là-bas, il trouve la maison de Joseph et Marie, il voit cet enfant roi qui devait commencer à faire ses premiers pas, et les mages, le texte nous dit, sont heureux de l'avoir trouvé. Ils lui offrent des cadeaux, l'adorent, pensant peut-être qu'il fallait faire comme dans leur culture et adorer le roi comme un dieu, mais ne sachant pas forcément que ce roi était Dieu lui-même. À leur départ, eh bien, ils s'en retournent dans leur pays en évitant de passer par Jérusalem, ayant peut-être compris la fourberie d'Hérode. Des rois, des mages, et nous, dans cette histoire, en quoi est-ce qu'elle peut nous concerner, nous qui vivons 2000 ans plus tard? Alors je vous propose, même si on l'a dit au début, que c'était peut-être intéressant de ne pas se focaliser sur le début de cette année civile, nous y sommes quand même, et je vous propose trois réflexions qui pourraient nous accompagner tout au long de cette année civile 2026. Tout d'abord, le roi sur qui on peut compter, c'est l'enfant roi, c'est Jésus. C'est lui notre seul espoir, c'est lui sur lequel notre foi s'appuie. En comparaison, ce n'est pas sur Hérode ou sur les autres rois et dirigeants de ce monde qu'il nous faut nous appuyer. On doit, c'est vrai, faire avec, on doit peut-être faire du mieux possible, mais le Sauveur, c'est Jésus. Et c'est une vérité sur laquelle on peut compter, une vérité qu'on peut méditer à nouveau, qu'on peut relire, qu'on peut se redire quand les difficultés et les épreuves viendront durant cette année 2026. Parce qu'on le sait, même si on souhaite nos meilleurs vœux en disant bonne année, bonne santé, la vie sur Terre n'est jamais simple et les soucis peuvent arriver à tout le monde. Cette vérité du Jésus seul sauveur peut nous porter dans ces moments-là. Ensuite, deuxième réflexion, comme ces mages, on peut aussi chercher, on peut s'approcher de Jésus. Ce Jésus, ce Sauveur, il est accessible. Mieux, il se laisse trouver, il n'est jamais jamais trop occupé pour nous. Vous savez comment c'est souvent difficile pour accéder à un chef d'État, qui ont des agendas très chargés. Jésus, lui, n'est jamais trop occupé pour chacun d'entre nous. C'est vrai, il n'est peut-être pas toujours là où on attendrait à le trouver, où on s'attendrait à trouver un roi. Mais c'est pour nous dire qu'il est vraiment accessible, là où on est, à côté de nous. Il ne joue pas à une partie de cache-cache, où il faudrait être une bonne personne pour qu'il puisse se révéler à nous. Jésus se révèle à tous. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre état, de notre passé, ou même de notre présent, peut-être pas toujours glorieux. Enfin, troisième réflexion, dernier vœu, on peut trouver dans cet épisode d'Épiphanie, de révélation de Dieu hein, aux êtres humains, un encouragement, celui de la joie. Le monde dans lequel on vit est parfois, souvent même, ténébreux, difficile, violent, insensible, dépressif, quand on regarde le verre à moitié vide. Et dans ce tourbillon de malheurs et d'épreuves, eh bien, l'arrivée d'un sauveur peut nous réjouir. Elle peut nous procurer de la joie. Alors c'est vrai, Dieu ne nous demande pas d'être toujours joyeux dans le sens que même si on est triste, on doit se forcer à être joyeux, ou parce qu'on est chrétien, on devrait être toujours joyeux dans n'importe quelle circonstance. Jésus lui-même a été triste. Il a pleuré lorsque son ami Lazare était mort. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas de cette joie dont il est question dans ce texte, il est question de la joie du salut, de la joie de voir enfin le Sauveur, de voir enfin Jésus. Et pour nous aujourd'hui, de le voir, c'est vrai, à l'œuvre, mais de savoir aussi qu'il reviendra. Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Que sa première venue était une annonce de sa seconde venue qui sera, elle, permanente et qui sera vécue dans une joie permanente où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de violence, plus d'orgueil de la part de l'être humain. Et c'est là notre espérance. Le retour de Jésus parmi nous est pour toujours. Et cette espérance, c'est elle qui porte dans l'épreuve. Et c'est particulièrement touchant de voir des personnes âgées qui vivent des temps difficiles dans leur santé ou dans leur famille ou des épreuves et qui peuvent raconter comment elles ont été portées par Dieu, comment cette espérance les a portées. Cette espérance, elle encourage dans les moments de joie et dans les moments de peine. Et pour conclure, je vous invite à méditer cette parole un petit peu pendant ces temps de vœux, ce mois de janvier, et à repenser à ces rois et à ces mages, quand vous mangerez cette galette des rois. Pensons-y et rappelons-nous que le roi, c'est Jésus. Que ce Jésus est le salut accessible pour tous, pour nous tous ici. Que la venue de ce salut est l'annonce de son retour permanent et que c'est là notre espérance. Amen.